Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Alors athlète pro, confirmé ou amateur, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis. Les beaux jours sont là, il faut en profiter. Yoann Durand, marathonien, membre de l'équipe de France, le coach d'RMC Running est avec moi. Salut Yo-Yo, comment ça va?
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Ah, il a le sourire, la prépa marathon est lancée. Eh oui, ça y est. Hop, objectif championnat d'Europe, là je te sens...
Focus.
Lancé comme un frelon, comme dirait
Moscato. Ah ouais, là je suis lancé. Bon, je suis toujours ton coach, mais là bientôt je vais avoir besoin de tes conseils. Hein.
Oh.
On va inverser les rôles.
D'accord. Bon, mise plutôt sur les conseils de ton vrai coach, hein, si tu veux vraiment progresser, parce que moi je sais pas trop ce que je peux te conseiller. Enfin bon, en tout cas je peux te soutenir, c'est toujours ça.
Voilà, c'est déjà ça. Et c'est beaucoup.
On vous rappelle ça, fidèle d'RMC Running, toutes les semaines vous rejoignez notre club RMC Running sur Strava. Vous nous rejoignez sur Instagram et sur Twitter et puis vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement. On a de plus en plus de dossards, de plus en plus de cadeaux, donc n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Un champion atypique, Yoann, est l'invité d'RMC Running cette semaine, un de tes amis. Aussi fort à vélo qu'en course à pied, Benjamin Schocker, champion du monde, triple champion d'Europe de duathlon, une épreuve combinée de cyclisme et de running. La séance d'entraînement sera donc adaptée à son profil. Quels sont les bienfaits de l'entraînement croisé? Le bon plan d'ossard cette semaine va nous emmener à Versailles, la course royale du château de Versailles. C'est le 19 juin prochain. RMC est partenaire et on est ravis de vous faire gagner les dossards. Et puis évidemment, on aura plein de conseils d'ici là. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running.
Une journée aux côtés de Benjamin Schocker est loin d'être de tout repos. Il est aussi membre de l'équipe de France de duathlon, une discipline qui mélange course à pied et vélo.
C'est tout simplement le champion du monde de duathlon, champion d'Europe, multiple champion de France, mais il est également en athlée, champion de France sur 5000 et en cross-country.
Champion Benjamin Schocker comme champion et madre mia, quel mondial, quel carrerón a hecho.
Parce qu'il multiplie les disciplines, Benjamin s'entraîne 2 à 3 fois par jour.
Dans la course à pied, il n'y a pas que courir en fait, il y a tout ce qui se passe à côté.
Maintenant où Benjamin a une palette extraordinaire, c'est qu'il est capable de courir vite, voire très vite, du 1500 mètres au marathon.
De toute façon, les sports croisés, c'est très complémentaire, hein, que ce soit le vélo, la course à pied. Mais je pense que moi, j'ai commencé à bien progresser en course à pied quand j'ai commencé vraiment le vélo et le duathlon.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
Ah, bicyclette. Yves Montand. Il est avec nous, Benjamin Schocker, évidemment, duathlète, champion du monde, triple champion d'Europe, multiple champion de France, mais également l'un des meilleurs marathoniens français, membre d'ailleurs de l'équipe de France en tant que remplaçant au dernier jeu de Tokyo. Salut Benjamin, comment ça va?
Bonjour à tous, mais merci bien. Que dire après tout ça?
Ah bah non, mais c'est juste le résumé de ta carrière, donc t'as pas à nous remercier, hein, c'est juste un petit condensé de tout ce que tu as déjà réalisé. Vous êtes potes d'ailleurs les gars, on le précise, hein, Yoann, c'est un de tes bons potes Benjamin. Hein.
C'est ça, on a eu la chance de s'entraîner le mois dernier ensemble à Font-Romeu, puisqu'on était tous les deux là-haut, ouais. Et on prépare le même objectif, les championnats d'Europe... à Munich au mois d'août à l'équipe de France.
Exactement, de championnat d'Europe de marathon à Zurich. Il y a plein de sujets à aborder avec toi Benjamin, tu as un profil très intéressant, les bienfaits on le disait de l'entraînement croisé, la façon dont tu planifies ton année, comment tu t'entraînes, mais la première question qu'on a envie de te poser, pourquoi tu nages pas Benjamin? Ça serait plus simple de faire du triathlon, non? T'as peur de l'eau, c'est quoi l'histoire?
Bon, l'eau c'est pas trop mon élément. J'ai beau être maître nageur, je sais bien l'enseigner la natation, mais c'est pas forcément bien la pratiquer, donc je me contente de faire ce que je sais faire.
Ah ouais, bah en tout cas tu brilles en cyclisme et en course à pied. Non, la vraie question qu'on pose à tous nos invités pour démarrer les podcasts, c'est tout simplement pourquoi tu cours, pourquoi tu pratiques la course à pied Benjamin?
Bah moi c'est une réponse que je donne souvent en fait. Moi à l'origine j'ai commencé la course à pied parce que j'ai été asthmatique quand j'étais enfant et c'était le médecin qui avait préconisé que je me mette à courir au début, donc pas de compétition, c'était juste pour développer mes bronches. Et puis bah je me suis laissé piquer un peu par le virus de la course à pied.
C'est incroyable, donc tu pars d'un entre guillemets d'un problème physique et tu en fais une force quoi. C'est déjà un sacré trait de caractère.
Bah c'est ça, et puis du coup bah ça m'a plu. Après j'ai tout de suite été plus attiré par tout ce qui était longue distance, et puis voilà, après on se laisse prendre au jeu avec les copains, tout ça, et puis un jour on veut porter le maillot de l'équipe de France, et puis bah une fois qu'on le porte une fois, on veut plus le lâcher.
Évidemment, donc on aura le temps d'en parler dans un instant, ça sera juste après ton CV de coureur.
RMC,
le CV de coureur.
Tu as quel âge, Benjamin Schocker?
J'ai 36 ans.
Ah, même génération que Durand.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est la meilleure génération.
Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Et tu cours depuis quand, alors? Depuis que t'as quel âge exactement?
J'avais 8 ans.
8 ans. Tu cours combien de fois par semaine en moyenne?
En moyenne, une bonne dizaine de fois, parce qu'après, moi, il y a le vélo, donc ça diminue un peu.
T'es sûr. Ça représente combien de kilomètres en course à pied, hein, je veux dire? En moyenne, hein.
Ça dépend de la période. Quand c'est la période marathon, ça va de 160 à 200. Et sinon, ça va plutôt redescendre à 100, 120, période duathlon.
Ok. Tu t'entraînes quand? À quel moment de la journée?
Généralement 2 à 3 fois par jour. Donc souvent, assez tôt le matin pour bien récupérer avec la séance d'après-midi qui va être milieu d'après-midi, fin d'après-midi.
Question que tout le monde se pose quand on découvre ton profil. Tout simplement, tu préfères le vélo ou le running?
Bon, comme c'est mon premier sport, j'ai tendance à préférer la course à pied, mais c'est vrai que les sorties groupes en vélo, c'est toujours quand même, c'est sympa, on voit autre chose, et puis il y a un peu plus de défis, quoi.
Ouais. Est-ce que tu as des records perso? J'imagine que oui, parce qu'il y en a un qui est quand même symbolique sur marathon, ou des victoires dont tu es fier? T'es plus fier du record sur marathon, ou alors du titre de champion du monde en duathlon?
Oh, bah, je dois dire, voilà, plutôt le titre de champion du monde en duathlon, parce que je tournais autour depuis un moment, et c'est vrai que c'était quelque chose de franchir la ligne. Ouais, voilà. Un titre, même si un record, ça reste sur les tablettes, un titre, ça reste autre chose.
Tu sais, on avait reçu un autre membre de l'équipe de France de marathon, Nicolas Navarro, qui, quand on lui a posé cette question, nous a dit « Non, moi, je suis plus fier de ma 12e place au jeu plutôt que de mon record perso sur marathon. »
C'est sûr, en plus, les jeux, c'est l'expérience d'une vie, donc c'est normal. Ouais.
Bien sûr. Ta dernière course disputée, c'était quoi, Benjamin?
Ce dimanche, les interclubs sur 3000.
La prochaine, c'est quoi?
Ça va être les championnats du monde de duathlon qui sont le 10 juin en Roumanie.
Ta séance d'entraînement préférée?
Les sorties longues, marathon. c'est vrai que moi j'aime bien ça, parce qu'en plus souvent on finit un peu sur les rotules, on voit flou, on voit des étoiles, et c'est des sensations plutôt sympas, quoi.
Bingo, Maître Durand, ça marche à chaque coup.
C'est un vrai marathonien.
Ça marche à chaque coup. Voilà.
À chaque coup, tu poses la question à un marathonien, normalement c'est la sortie longue.
Alors attention, la suite logique, quelle est la séance que tu détestes?
Moi, les séances que je déteste, elles sont plutôt en vélo, du coup, c'est les séances PMA vélo, parce qu'en fait ça me déchire les jambes en deux, et après c'est dur nerveusement à récupérer ce genre de grosses séances.
C'est sûr. En tout cas, on est très content de te recevoir cette semaine, Benjamin Schocker. Tu es un profil dont on voulait parler depuis pas mal de temps. Bon, on a eu aucune difficulté à te contacter, parce qu'on le disait, tu es un ami de Johan Durand. Démarrons donc au début de l'histoire. Benjamin, ce qui est marrant avec toi, c'est que tu es fan de sport, oui, mais surtout grand fan du club Dorothée. Alors pourquoi j'en parle? Pas seulement pour te chambrer, j'en parle surtout parce que les mangas, ça fait partie intégrante de ta vie, fan notamment des Chevaliers du Zodiac, des Power Rangers. Ça a une vraie place dans ta vie, quoi. C'est une vraie passion, et on le retrouve même sur ton corps, parce que tu as des tatouages dédiés justement aux mangas, Benjamin.
Oui, sur le torse, ça vient d'un manga, et même les soleils que j'ai sur les articulations, c'est des kanji japonais qui à l'intérieur, c'est les éléments. Et oui, en plus, moi, je fais partie de la génération du club Dorothée. Je regardais ça quand j'étais gamin, j'ai grandi avec ça, et du coup, j'ai continué, moi, à regarder et à poursuivre un peu tout ce qui était manga de sport, et surtout d'autres mangas qui avaient marqué ma jeunesse.
Tu l'as connu non tatoué, Benjamin, toi, Johan, ou pas?
Non, parce que je l'ai connu en junior sur des Europes de cross, un truc comme ça, et il avait déjà ses tatouages au cou, je me rappelle.
Ouais. C'est vrai que Benjamin, on doit tout le temps t'en parler, mais c'est ce qui marque lorsqu'on te voit courir, ou qu'on te voit en photo après la réalisation d'une bonne performance, c'est ces tatouages, parce que ils sont nombreux, mais surtout ils remontent jusqu'au cou, donc on est obligé de les voir. T'as des tatouages sur les rotules aussi, mais celui du cou, tu peux pas le cacher de toute façon, quoi qu'il arrive.
Non. Puis c'est vrai qu'au départ, quand je l'avais entre guillemets vendu à mes parents, il remontait pas jusqu'au cou, et c'est chez le tatoueur que je l'ai fait modifier, donc. Oui, bon. Oui, bah après c'était un choix personnel et
puis, ouais, non, bien moi, sûr.
Je le regrette pas et ça m'est déjà arrivé en cours avec les enfants, avec des maternelles en fait, qui me fassent un dessin après les nombreuses séances qu'on a et en fait ils le dessinent même pas sur le dessin, ils se rendent même plus compte au bout d'un moment que je suis tatoué les enfants.
Eh oui, bien sûr. Ils ont tous une signification particulière.
Oui, ils ont tous une signification particulière et puis ça fait déjà de nombreuses années que je dois en faire d'autres et à chaque fois. Je traîne un peu, mais il y aura une continuité.
Bon, il y aura peut-être les anneaux olympiques dans quelques temps.
Voilà. Ah, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé en mettre avec écrit Tokyo à côté, mais bon, ouais. ça sera peut-être Paris. Ouais.
En plus, la culture nippone qui te fait rêver et qui te passionne, donc c'est vrai que c'était une drôle d'histoire, mais Paris, c'est encore mieux parce que c'est à la maison et on espère qu'il y aura une équipe de France, pourquoi pas, avec Durand et Schocker. On y reviendra,
ouais,
mais
c'est ça, ouais.
Parlons de tes débuts en tant que sportif. Tu parlais de la course à pied, c'était plutôt un besoin médical au départ. C'est le sport par lequel tu démarres ou tu d'entrée déjà dès adolescent, tu pratiques également le cyclisme?
Non, moi en fait, mon père était coureur cycliste, on l'accompagnait tout petit sur les courses en cyclocross, tout ça. Et moi, ça m'avait dégoûté du vélo parce que voilà, moi je devais garder une paire de roues au cas où il y a un problème, tout ça. Donc j'avais toujours dit non, je ferai jamais de vélo, j'aimais pas ça. Et puis bah, je me suis laissé un peu prendre au jeu un peu plus tard parce que voilà, je voulais partager quelque chose avec mon père.
Le passé est particulier. Il y en a d'autres sportifs qu'on a déjà fait qui avaient des parents sportifs. Je pense à Paul Radcliffe, rappelle-toi, qui avait son père qui était coureur amateur. C'est quand même mettre un pied à l'étrier. Il y a Johan Koval aussi, ton autre pote qui était avec nous.
Son père était coureur de steeple, ouais.
Un fils d'athlète. Bon, c'est quoi, on a déjà un pied dedans quand on est gamin.
Bah c'est ça, ouais. Généralement. Les bons athlètes ou les athlètes d'aujourd'hui, les grands athlètes, c'est ça, ont généralement forcément est baigné depuis tout petit dedans. C'est plus facile d'arriver. Après, il y a les parcours différents, comme les miens ou nous. C'est parce qu'on a été doués et qu'on a rencontré la course à pied. Enfin, c'est plus la course à pied.
Tes parents sont sportifs? Je t'ai jamais posé la question, Yo-Yo, d'ailleurs.
Pas du tout.
D'accord.
Footballeur un peu mon père, mais ouais. Ma mère pas du tout, ma sœur pas du tout, dans ma famille pas du tout. Et c'est moi je trouve que c'est un avantage parce que ils m'ont jamais pris la tête avec ça. Ma mère, je peux lui dire que j'ai couru 1h50 au marathon, elle va me dire ah bah c'est bien, mais elle sera même pas capable de ça. Enfin, elle a zéro référence, hein, donc elle en sait rien, donc ils m'ont jamais mis la pression sur quoi que ce soit. Et ça, c'est quand même quand même un avantage de mon côté, ouais.
C'est sûr. Est-ce que t'as eu une pression paternelle toi ou pas, Benjamin, depuis le début de ta carrière?
Oh non, absolument pas. Moi, ils m'ont laissé choisir. Ils étaient contents, voilà, que je m'occupe, que je fasse du sport. Et, ouais. Et c'était plus moi, la pression, moi, je l'avais parce que quand j'étais jeune, en fait, j'étais le fils de mon père.
Le nom Schocker, ouais.
Voilà, en fait, t'es le fils de Christian Schocker.
Ouais, d'accord.
Et j'étais content par la suite d'avoir fait inverser les choses et que ça soit plutôt lui, mon père.
Le père de Benjamin.
Chez les Schocker, la star maintenant, c'est Benjamin. Voilà. Raconte-nous comment tu découvres le duathlon. Alors, ça paraît simple pour ceux qui nous écoutent. Le duathlon, c'est du triathlon sans la natation. C'est du vélo et de la course à pied. Mais c'est pas si évident parce que le duathlon, c'est de la course à pied, du vélo et encore de la course à pied. C'est en trois étapes, en fait, Benjamin.
Bah, c'est ça, en fait. C'est comme le triathlon. C'est le triathlon pour les mauvais nageurs. Donc, on a juste remplacé la natation par une deuxième course à pied, en fait, une course à pied en plus. Voilà. Et moi, j'ai commencé sur un open chez moi à Nancy.
Ouais.
On m'avait demandé un peu de me tester parce que quelqu'un avait appris que je m'étais mis un peu à faire du vélo. Donc, je me suis testé sur cette course open à Nancy et tout de suite derrière, j'ai dû faire 6 ou 7e, je crois. Il y avait des beaux clients d'ailleurs. Même Benoît Nicolas avait participé pour son premier duathlon à cet Open-là. Donc, on a commencé notre carrière en même temps. Et j'ai été tout de suite recruté par le club de Metz Triathlon, voilà, qui n'est pas trop loin de chez moi et qui me donnait ma chance pour.
Non, mais quand on est
de
Nancy, comment on peut aller à Metz? C'est incroyable ça. Comment on peut
oser faire? parce que moi, je suis avant tout Laura. Et que moi,
le
clivage Metz-Nancy. Bon. Pour moi, le clivage Metz-Nancy, il n'existe pas. Moi, je dis toujours, je suis le trait d'union entre Nancy et Metz. Quoi. Moi, je suis Lorrain.
Explication valable. Bravo.
Voilà.
Alors, parle-nous de cette discipline quand même, parce que je le disais, tu as quand même brillé souvent. Tu es multiple champion d'Europe, multiple champion de France. Tu as été champion du monde. Déjà, il y a plusieurs formats. Quel est le format qui te correspond le plus? C'est le format standard, entre guillemets? Tu peux nous rappeler les distances?
Donc sur le format, le vrai format standard, qui est le format du championnat du monde et anciennement championnat d'Europe, c'est 10 km à pied, 40 à vélo et 5 à pied. Et c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, sur le format Europe, en fait, ils nous ont mis le format S, en fait, qui est la moitié des distances, donc qui est plutôt 5, 20 et 2,5. Et c'est souvent le format qu'on a sur les grands prix D1 de duathlon en France, mais... et qu'on avait au chemin de France aussi. Donc ça, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus intense, donc ça laisse moins de place, du coup, à l'improvisation.
5, 20 et 2,5, t'es à bloc tout le temps, en fait.
Ouais, bah c'est un peu ça, on est un peu à bloc, surtout à la fin, quand on pose le vélo.
Toi, t'es moins à l'aise sur ce format-là, de par le fait que t'es plus marathonien et que t'as une plus grosse caisse?
Bah, c'est vrai que maintenant, j'ai perdu un peu en vitesse, même s'il me reste encore quelques bases, mais c'est vrai que j'aime plus commencer par un 10 bornes où ça va pas mal épuiser un peu l'effort, surtout des gros cyclistes sur le 40 de vélo et permettre après un peu plus à moi qui est un peu plus limité à vélo de pouvoir m'exprimer.
Comme c'est très tonique, très rythmé, est-ce que la stratégie de course est essentielle?
Bon, la stratégie, elle marche surtout s'il y a une stratégie d'équipe, en fait, surtout quand c'est le championnat de France des clubs. Quand c'est les courses championnat du monde, en fait, en équipe de France, il n'y a pas vraiment de stratégie en place. Il y a un peu d'esprit du début, mais après, c'est vrai que c'est assez dur d'attribuer un vrai leader, parce qu'on a tous notre chance à jouer, donc c'est plus ça qui est compliqué. Donc on joue souvent notre carte chacun, on essaye de pas tirer dans les pattes des copains, quoi.
Mais j'ai l'impression que les transitions, en revanche, sont plus importantes qu'au triathlon. Là, ça doit être encore pire. La moindre seconde perdue peut te coûter la victoire, j'imagine.
Oui, c'est souvent ça. Si la moindre seconde perdue va nous faire perdre peut-être le premier pack ou les bonnes jambes sur la dernière transition. Et des fois, c'est un effort qu'on va faire en plus qu'on pourra pas faire à la fin sur le sprint final.
C'est quelque chose qui t'aurait plu, toi, Johan, parce que bon, tu fais un petit peu de vélo comme ça, notamment en ce moment, on en reparlera tout à l'heure, mais le duathlon, ça t'attire plus que le triathlon, toi qui n'es pas fan de natation?
Ouais, pareil. Ah, mais moi, si je fais un triathlon, déjà, je sors pas de l'eau, donc j'aurais une vraie problématique. Non, le duathlon, ça aurait pu m'attirer. Alors après, c'est pas parce que t'es bon en vélo et en course à pied que t'es bon au duathlon, parce que ce qui compte vraiment, c'est enchaîner et être capable de courir avec des jambes gorgées d'acide et des muscles totalement chargés. Donc c'est surtout ça qui est dur. Mais moi ça m'aurait plu. Mais j'ai jamais pratiqué, peut-être plus tard.
Il est pas trop tard.
Voilà. C'est ça.
Non, mais je vois que les Français se débrouillent bien, donc j'ai pas envie de venir marcher sur leur plate-bande, tu vois.
Ouais, c'est ça. Bon, précisons aussi que tu as un bon passé au niveau du cross, hein, puisque tu as été champion de France en 2015, c'est ça, Benjamin? Donc là aussi, les qualités naturelles sont ressorties assez vite, en fait, finalement.
Oui, voilà, champion de France de cross court, parce que moi, j'ai toujours bien aimé, en fait, le cross. J'avais fait les Europes en junior, et c'est vrai que c'est... Bon, à l'hiver, c'était le passage obligé, le cross. Ouais. Donc, et puis
t'es quand même un touche-à-tout, parce que moi, je me rappelle de toi jeune, des catégories junior, espoir, et t'étais un peu celui qui partait un peu dans... Tu vois, moi, j'avais une logique de carrière de faire de la piste et monter plus tard sur la route. Toi, t'as fait du trail, t'as fait des courses en montagne, t'as fait du... Tu venais au cross, tu venais sur la piste, tu venais sur la route. Toi, t'aimais toucher à tout et tout faire, quoi, en gros.
Je m'ennuyais un peu quand j'étais un peu enfermé dans une case. Moi, j'avais besoin de me tester, de découvrir d'autres ambiances. Et c'est vrai que en junior, la course de montagne, c'était vraiment une belle expérience. Ça m'a permis en plus de...
T'as fait des mondes de course en montagne.
J'ai fait les mondes en Italie et l'année suivante, j'ai fait les mondes en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai voyagé et j'ai découvert vraiment des beaux parcours, des beaux pays. Et en plus, l'effort était vraiment... On allait vraiment au bout de soi. C'était vraiment dur comme effort et moi, j'ai vraiment aimé ça.
Mais d'ailleurs... 2015, c'est une année de dingue pour toi parce que tu fais victoire au championnat de France de cross, champion de France du 5000 et champion de France du duathlon.
C'était un beau triplé la même année. C'est vrai que c'était pas mal. J'ai beaucoup enchaîné. Je crois que je me suis un peu blessé derrière.
Ah, oui, quand même.
Quelques mois.
Il y a une logique.
Parce que le corps, il a dit, fais gaffe, repose-toi un peu.
Bien sûr.
Sur trail, t'es allé faire les Templiers, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, j'ai déjà fait les Templiers, donc 75 bornes, un peu, en plus sans trop grosse prépa, donc j'ai un peu subi sur la fin, mais j'ai dû faire 8h20 d'épreuve j'ai dû faire dans les 30e, je crois, mais pareil, ça reste une belle expérience parce qu'en fait, tu vas vraiment au bout de toi-même, et puis même la première féminine, elle m'a doublé, j'étais au bout de ma vie, elle était impossible à suivre, et c'est là que tu, voilà, que tu redeviens un peu humble sur ce genre d'épreuve.
Bah oui, mais c'est tellement différent de ce que tu fais toi au quotidien que forcément, on a tous des limites dans différentes distances et épreuves. 2019, c'est également une grande année pour toi. On en parlait, donc ce premier titre mondial de duathlon à Pontevedra en Espagne, c'est de là que vient Benjamin Choker, évidemment.
C'est ça, ouais.
Et donc ça, j'imagine, souvenir incroyable avec le maillot de l'équipe de France, la Marseillaise et compagnie, ça devait être dingue.
Ouais, bah comme je disais, en plus ça faisait un moment que je tournais autour, que j'espérais l'avoir. Donc là j'ai presque fait une course parfaite, vraiment tout s'est bien déroulé à vélo, ça a bien gazé. Je sais quand je pose le vélo que le podium est assuré et j'ai très vite compris que
Ah.
la victoire a été assurée. Donc c'est encore plus d'émotion parce que quand sur les 2 derniers kilomètres et surtout le dernier kilomètre, bah tu sais que ta course gagnée, tu peux vraiment profiter, tu profites du public qui t'encourage. Et puis il y avait un peu d'émotion sur la fin parce que quelques semaines avant on avait perdu un de nos kinés de l'équipe de France qui était venu avec nous sur les championnats du monde d'avant. Donc c'est vrai que bah à l'arrivée tout ça moi c'est revenu, j'ai versé des larmes
Ouais.
de joie et de tristesse en même temps, et du coup c'est vrai que c'était beaucoup d'émotions en même temps.
Et puis en fin d'année, tu te dis, bon allez, je vais me remettre sur marathon, je vais aller faire Valence parce que c'est un parcours un peu roulant, et pam, minima pour les Jeux de Tokyo. Toi qui, on le disait, est le passionné de cette culture nippone, 2h11 et 11 secondes, alors tu deviens donc qualifié ou qualifiable puisque tu réalises les minima, et
Qualifiable, ouais.
tu seras finalement marathonien remplaçant derrière Navarro, Chadi et Hamdouni. Déjà, raconte-nous le souvenir de ce marathon et également le souvenir de Tokyo, parce que tu es allé sur place, t'as pas couru, mais quand même
Non,
t'as.
bah j'ai pas été en fait le
Ah, t'es
remplaçant,
pas allé
c'est
sur
pas comme
place. Ah,
non, c'est
d'accord.
pas comme pour les relayeurs du 4x100, du
Ah,
4x4,
ok, bah
le
je pensais.
remplaçant sur marathon, il reste à la maison, bah surtout en plus en période Covid,
Ah ouais.
voilà.
Et t'as donné le coup de fil au bout d'une
Ouais.
semaine de Jeux Olympiques, tu te dis, bon, peut-être qu'il y en a un qui va se blesser l'entraînement, peut-être que je vais
Ouais,
y
bah
aller.
non, j'espérais pas ça quand même,
Non, bien sûr,
c'est
bien
pas
sûr.
cool, c'est pas cool pour eux, mais c'est vrai que déjà avant de faire mon chrono, moi j'avais fait Berlin en septembre en fait, c'était là où je prévoyais de faire mes minima et j'ai fait une petite déshydratation, ça c'est pas bien passé, donc je craque un peu sur la fin et j'arrive pas à abandonner, donc je termine quand même le marathon et je m'étais dit bah faut dans 2 mois il y a Valence, faut rebondir dessus, donc j'ai continué la prépa et c'est vrai que bah ça s'est plutôt bien passé à Valence. Alors, est-ce que si j'avais pas fait Berlin et que Valence, est-ce que j'aurais fait un meilleur chrono et au lieu d'être quatrième, j'aurais été troisième ou deuxième
Ouais.
pour les chronos, je sais pas, mais c'était une belle expérience et au moins ça m'a permis de me débloquer sur quelque chose pour espérer encore un chrono meilleur par la suite.
Parce que rappelons-le, il y a des minima donc imposés Johan Durand. Et puis au
Ouais.
final, si vous êtes nombreux à réaliser ces minima, c'est à la fin au meilleur chrono. C'est les trois
Ouais,
meilleurs
c'est ça,
chronos qui
c'est.
sont sélectionnés, ça.
C'était 2h11:30 les minima pour Tokyo et malheureusement cette année ils étaient 4 à l'avoir fait et enfin malheureusement pour Benjamin
Ouais.
et c'était lui le quatrième performer et du coup c'est
Alors,
il était remplaçant ouais.
Johan, tu m'as dit dans l'épisode avec Nicolas Navarro et sa compagne Florian Hott, tu m'as dit les deux athlètes pour moi qui gèrent le mieux la distance du marathon, c'est donc Nico Navarro et Benjamin Schocker.
Ouais.
Pourquoi tu m'as dit ça à l'époque? Parce que de
Bah
son
parce
pas.
qu'on avait Nicolas Navarro
Oui, non, bien sûr, mais je veux
au
dire.
podcast et maintenant on a Benjamin
Ouais, c'est
Choquer, donc je savais. Si
ça.
tu m'avais dit qu'on avait Hassan Chadi, j'aurais dit Hassan
Non mais
Chadi.
blague à part, de son passé de cycliste, tu nous as
Non.
dit que la gestion de l'épreuve c'était leur qualité principale quoi, c'est.
Ouais, la gestion des épreuves longues en fait, ouais, de par le fait que ce sont des ouais, Nicolas vient du vélo aussi et Benjamin en fait beaucoup et c'est vrai que de par leur passé de cycliste, ils ont cette capacité à savoir se ravitailler et à sentir et surtout à la gestion de la course, c'est-à-dire que c'est vrai que si aujourd'hui je devais choisir un lièvre pour m'aider sur marathon ou une foulée à prendre pendant une course, je prendrais celle de Nicolas ou de Benjamin parce que ce sont des mecs qui courent de façon très régulière, qui se connaissent parfaitement et qui le jour de la course vont partir sur les chronos qu'ils savent qu'ils sont capables à aller à 20-30 secondes près. Je suis sûr que Benjamin, quand il a fait ses 2h11:15 à Valence, il savait qu'il partirait sur 2h11:0, tu vois,
Ouais.
et il savait qu'il valait entre 2h11:0 et 2h11:30.
C'est-à-dire qu'ils savent
Et
qu'ils vont pas exploser, quoi.
ouais, voilà, tu sais
Ouais.
que ça peut exploser, ça peut arriver à tout le monde, mais que sur la gestion de l'effort, ils feront pas forcément d'erreur sur les ravitaillements et sur les allures.
Ouais, c'est ça. Donc, tu confirmes, Benjamin. Donc, c'est un de tes points forts sur marathon, cette capacité à gérer ton effort tout au long des 42 kilomètres.
Oui, oui, bah, c'est un peu ça. C'est ce qui s'est passé à Séville cette année.
Ouais. Ouais.
Bon, j'avais prévu de partir dans le groupe 3-0-4 et ça a tenu 3-0-4, voilà, jusqu'à la fin. Je me suis juste accordé les deux derniers kilos à 2,53, je crois.
3,04, c'est l'allure au kilomètre. Hein, donc, on rappelle, ça fait 2h09 et 29 secondes. Voilà.
Ouais, c'est ça. 29 secondes, temps officiel, temps réel de 9,26, je crois. Enfin,
bon, ah, d'accord.
C'est pareil. C'est pareil. Et du coup, ça a été régulier. Ça a été bien régulier tout le long. Et en même temps, comme je revenais de blessure, j'ai eu que 10 semaines de préparation. Donc, je savais que je pouvais pas m'enflammer à partir avec Nico et Hassan à 3,00. Donc, 3,04, ça me convenait bien. Et voilà, ça a été régulier tout le long. Et tout s'est bien passé. Et c'est plutôt de bon augure pour la suite.
Ouais. Parce qu'on le disait, Benjamin Choquer, duathlète, donc membre de l'équipe de France, très bon marathonien, et donc 13e meilleure performance française de tous les temps à Séville au mois de février dernier. Hassan Chadi, ce jour-là, a fait 2h08-19, Nicolas Navarro 2h08-30. Mais toi, effectivement, tu as réalisé ce chrono de 2h09-26, donc en temps réel. Tu avais le chrono dans les jambes, moi, tu le savais que tu allais faire une énorme perf quoi qu'il arrive ce jour-là?
Ah oui, bah moi je venais pour battre mon record et puis faire moins de 2h10. Et c'est vrai que on a eu un très bon lièvre et un bon groupe qui a été bien régulier. Et quand on prend un peu le vent sur la fin, quand le lièvre s'écarte, moi j'ai pris les devants parce que je voulais pas qu'on perde l'allure. Et on s'est retrouvé après à 3 à se tirer un peu la bourre sur la fin pour se relancer. Et c'est vrai que ça m'a bien dynamité pour accélérer les deux derniers kilomètres.
Johan, t'as été surpris de cette perf ou tu t'y attendais?
Je l'avais côtoyé au Portugal toute sa préparation. On a fait 15 jours de prépa ensemble là, sur la fin de sa prépa quasiment. Donc non, je m'y attendais. La difficulté d'un marathon comme Séville, c'était de savoir les conditions météo et surtout les lièvres. Hein, je le répète assez souvent, mais sur marathon, c'est la condition la plus importante pour une perf, c'est la météo le jour J et les lièvres. Et en Espagne, en ce moment, que ce soit Valence ou Séville, ce sont des marathons qui sont à la mode et qui sont très roulants. Et généralement, les conditions météo, elles sont toujours top. Et du coup, ça permet vraiment de faire des perfs. Et voilà, Benjamin l'a dit, il a couru avec Florian Carvalho, un autre pote à nous, avec qui il s'était préparé aussi, puisqu'on était tous les trois au Portugal. Et c'est vrai que je savais qu'il partait sur moins de 10 et il les valait. Donc après, il faut le faire le jour J. Mais ça ne m'a pas surpris quand j'ai vu les chronos. Ouais.
Comment tu planifies une saison, Benjamin Choquer? Est-ce que le marathon a une part... plus importante que le duathlon aujourd'hui, ou est-ce que c'est toujours du 50-50? Là, on va rentrer dans une période compliquée, Johan nous en parle tout le temps, parce qu'on va arriver rapidement en 2023 et ça va être le temps des justement minima olympiques pour ce fameux rêve de Paris 2024. Donc déjà, comment tu as planifié cette saison qui est en cours et comment tu vois la suite de ta carrière, Benjamin?
Généralement, moi, le calendrier, j'essaie de le planifier un an à l'avance où je vais mettre les gros objectifs internationaux de l'année sur le calendrier. Alors, il y a des années, ça se passe très bien parce que, en fait, les objectifs internationaux en duathlon, ils sont bien placés assez loin des objectifs de marathon. Donc, ça me permet de faire un ou deux gros marathons.
C'est par exemple l'été et tu fais un marathon d'hiver, quoi, ou d'automne, c'est ça?
C'est ça, en fonction. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, j'ai fait février, j'ai fait Séville. Donc, c'était pour me qualifier pour les Europes. Donc, les Europes, là, ça va être août. Voilà. Donc, c'est bien, c'est assez à l'écart, même si, voilà, au mois de juin, je suis au monde de. Monde de duathlon en Roumanie et je vais être aux Jeux mondiaux en juillet, donc ça a un peu chevauché à partir des Jeux mondiaux les deux prépas, mais c'est pas gênant en soi. Bah, si les prépas se chevauchent, c'est vrai que des fois c'est problématique, mais généralement ça fait quelques années là que ça se passe plutôt bien, donc non. Et comme je disais, en fait, à partir de depuis cette année, c'est plus la Fédé de tri qui m'aide un peu plus, surtout pour mon emploi, donc
ouais.
Donc voilà, je priorise plus facilement le duathlon, même si le marathon, ça reste quand même une course importante pour moi.
C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu vis de ton ou de tes sports, ou pas encore à 100%?
Non, moi je suis maître nageur à côté, à la métropole du Grand Nancy. Après, j'ai la chance d'avoir un CIP et en plus, maintenant, j'ai des jours de détachement dans l'année. Donc c'est vrai que je travaille plus beaucoup quand même. J'ai un peu plus de temps pour faire des stages Et pour m'entraîner,
il voit pas, il plonge pas trop dans le chlore. Hein.
Ah mais c'est fou, le gars veut pas faire de triathlon alors qu'il est maître nageur. Mais ça.
Ouais, c'est ça. Non mais ça l'a dégoûté. Du coup, il s'est dit je vais bosser là-dedans.
C'est ça. Bah on dit souvent que c'est les cordonniers les plus mal chaussés.
Ouais, c'est vrai. Ouais, bien vu. Bonne réponse. Ouais. Bonne
je réponse. Sais très bien l'enseigner, mais je le pratique pas trop bien.
Mais Johan, nous on est un peu surpris d'entendre qu'un athlète comme Benjamin ne vit pas entièrement de son sport, quoi, n'est pas à 100% athlète de très haut niveau. C'est ça qui.
Bah c'est la difficulté du sport de haut niveau, hein, c'est de pouvoir en vivre et de. Ouais, c'est tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Hein. On a eu sa collègue de club Aurore Fleury, pareil dans un podcast, ouais. Kiné ostéopathe, pareil travaille. Ouais, c'est délicat. Ouais, on est le premier sport olympique, mais voilà. Quelque part, le sport en France, le sport de haut niveau, quand c'est pas un sport co, foot, rugby, hand, basket, bah derrière, c'est compliqué, quoi.
C'est impossible, Benjamin Schocker, de vivre du duathlon, par exemple.
Ah bah surtout que le duathlon, oui, le duathlon est pas sport olympique, bah, donc déjà il y a beaucoup moins d'aide. Ça serait un sport olympique, peut-être qu'il y aurait possibilité de faire des choses comme pour le triathlon, mais non, le duathlon est pas sport olympique, donc non, c'est beaucoup moins rémunérateur que la course à pied.
Toi, pour être clair, pour l'instant, t'es rattaché à la Fédé de triathlon, hein, ou les deux?
Non, je suis quand même, je suis sur liste sur les deux.
Les deux, ok.
Mais du coup, je suis sur liste élite en duathlon pour la Fédé de tri, et je suis cette année que collectif nationaux en athlée, autant dire rien du tout, parce que les collectifs nationaux, c'est des listes fédérales, c'est pas des vraies listes, c'est pas une vraie liste de haut niveau, donc ça t'accorde aucune aide. Et voilà, après, si j'ai la chance de faire les chemins d'Europe cette année, bah, je serai à nouveau l'année prochaine. J'y étais l'année dernière, j'y serai peut-être l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'au milieu, tu te dis, bah, c'est pas cohérent avec le projet de l'athlète, quoi. C'est dommage.
Là, tu as un grand objectif qui arrive. Donc on a dit, tu vas faire les mondiaux, mais le grand objectif, c'est les championnats d'Europe de marathon avec Johan, mi-août à Munich. C'est vraiment l'objectif de ton année sportive. Là, c'est le moment où tu veux être le plus fort dans l'année.
Pour moi, il y avait deux objectifs. Il y avait les mondes de duathlon. Et le marathon aux Europes, donc voilà, j'espère que être performant sur les deux, et sachant qu'il y avait aussi cette année, je participe aux Jeux Mondiaux en duathlon, donc les Jeux Mondiaux, c'est les Jeux Olympiques pour les sports qui sont non olympiques.
Ouais.
C'est pareil, c'est tous les 4 ans, donc c'est vrai que j'aimerais bien faire une belle perf aussi là-bas. En plus, ça va être aux États-Unis, donc tu
pouvais pas viser les championnats du monde à Eugene de marathon, non?
Non, bah comme je revenais de blessure, je me suis blessé de fin août jusqu'à début décembre, donc la prépa était assez courte. J'ai eu que 10 semaines pour me préparer pour Séville.
Ouais.
Donc c'était pas possible d'être performant à Séville pour viser tout de suite les minima en 2:08:40. Ça c'était pas. C'était vraiment, je pense que j'aurais sauté si j'étais parti sur ces allures-là. Donc, je préférais assurer les Europes et après être performant aux Europes plutôt que me griller bêtement sur le début de saison.
Juste préciser quelque chose qu'on n'a pas encore précisé, c'est que 15 jours après donc ton record à Séville, t'es quand même venu sur le semi de Paris et t'as fait meilleur français à 1h03:39. Bon, coach Durand, c'est pas trop conseillé. Genre
ouais, franchement, je lui mets un carton jaune pour ça.
Bon, t'as voulu venir, tu t'es dit, il y a un peu de lumière, je vais y aller. Et puis au final, t'as fait un sacré temps.
Après c'était, faut pas oublier que c'est le semi Adidas. Moi j'ai la chance d'être sponsorisé Adidas, d'être.
Et après il a recouru 15 jours après au semi de Nancy aussi. Il le dit pas ça.
Ah mais ça c'est la maison.
Oui mais ça, ça c'est la maison.
Et là c'est la maison. Obligé. Ok, ouais, ouais. Non mais il y a toujours une raison. Le t'écoutes les athlètes, il y a toujours une bonne raison de
là,
faire des
vrai,
courses.
T'as raison.
Monsieur Boutron, faut que je le bride parce que sinon ouais, le week-end il me trouve une course.
Ouais c'est vrai.
Après Yodu, je sais pas si ça te le fait toi, mais moi jusqu'à 15 jours après le marathon, ça peut bien se passer. C'est plutôt à partir de 3-4 semaines où mon corps est fatigué.
Ouais. T'as une phase
de marathon.
Ouais, c'est ça. Ouais, moi, c'est le soir, je veux plus entendre parler pendant un mois.
À 15h, tu vois, quand t'as passé la ligne 2-3 heures après que tu te remets à marcher.
T'as pris la douche à l'hôtel, crac. Ouais. Ouais, bon. Mais en tout cas, on te félicite pour ce résultat également. Benjamin, on en parlait, 2024. Objectif ultime, la qualif pour ce marathon olympique qui va être complètement dingue dans les rues de Paris. C'est ça que tu as en tête pour les prochains mois, voire les prochaines semaines, parce que ça va venir très vite. Vous allez commencer à envisager vos prépas pour 2023 et ces minima à réaliser.
Bah oui, absolument, parce qu'il y a dans le coin de ma tête, il reste toujours cette déception de Tokyo. Donc et puis surtout je commence à prendre de l'âge hein, comme Yodu, donc ça sera sûrement les derniers non. Possibles hein,
on verra peut-être à Los Angeles
bon
peut-être en tant que coach
ah ouais Oui, c'est plutôt, ouais. Ou consultant pour RMC, ouais, à la limite.
Ça, c'est possible. Méfie-toi, ça peut venir vite. Hein.
Ouais. Non, mais c'est sûr que oui, après, maintenant, il y a une génération montante et puis il y a beaucoup de monde sur marathon.
Ah, c'est incroyable. Il y a une densité.
Il y a une époque où il n'y avait personne. La France n'envoyait personne. Maintenant, on est performant et on est nombreux. Donc c'est bien. Faut bien préparer 2023 et 2024 pour essayer de faire un meilleur chrono possible et faire partie des trois, parce qu'il y a que trois dossards pour prendre ce départ à Paris. Ou alors faudra prendre le départ du marathon pour tous.
Trouverai un dossard, t'inquiète pas.
Déjà faut m'en trouver un à moi, parce que moi je vais pas prétendre comme vous au marathon des champions, donc faut m'aider. Voilà. Et puis Benjamin, on en parlait, et puis c'est la dernière question que je vais te poser avant la séance, mais on en parlait avec Johan Koval, qui lui monte sur marathon avec cet objectif de 2024, mais cette densité incroyable. Il y a déjà les trois qui étaient à Tokyo, toi t'étais réserviste, il y a Johan Durand, il y en a plein d'autres qu'on peut citer d'ailleurs. Johan, il y a toi qui y étais pas, malheureusement, parce que t'étais blessé. Il y en a un paquet.
Ouais, il y a Mehdi Frère. Il y a du monde.
Il y a beaucoup de monde. Ça fait peur, ça motive. C'est comment tu vois ça, toi, Benjamin ?
Bah non, c'est ça qui motive. En fait, c'est ça qui nous tire vers le haut. C'est que depuis qu'il y a de la densité, on arrive à faire quand même quelques regroupements tous ensemble avec la Fédé. Et du coup, c'est quand même plus intéressant d'être nombreux, d'être tiré vers le haut, plutôt que d'être solo et que ça apporte pas grand-chose. Là, c'est vraiment intéressant. En plus, à part 2-3, on s'entend tous très bien ensemble, donc on arrive à s'entraîner ensemble et c'est vrai que c'est une belle émulation.
Et d'ailleurs, dernière question, il est vraiment sympa dans la vie, Yoann Durand?
Ah, il est surtout drôle, c'est pour ça on se marre. On sait qu'on s'ennuie jamais avec lui. Après, faut lui donner plusieurs heures de rendez-vous parce qu'il arrive jamais à l'heure, donc faut bien gérer, quoi.
Ah avec nous, il est tout le temps à l'heure. Je sais pas pourquoi, tiens. Ça, c'est vrai.
Ouais. C'est vrai.
Bon, en tout cas, on vous le souhaite, les gars. Paris 2024, on sera à fond avec vous. Coach, moi, je compte sur toi, évidemment, parce que tu vas représenter RMC Running aux Jeux Olympiques, c'est pas rien. Puis toi aussi, j'espère. Benjamin, on te le souhaite. Ça va être une magnifique fête. RMC qui sera d'ailleurs mobilisé à fond sur les Jeux de Paris 2024. Donc, si vous y êtes, quoi qu'il arrive, on vous suivra. Allez, on passe à la séance.
RMC.
La séance.
Et oui, Maître Yodu, c'est un sujet dont on veut parler depuis plusieurs semaines dans RMC Running. On a attendu d'être avec un spécialiste pour le faire. Les bienfaits de l'entraînement croisé, mixer la course à pied avec un sport porté. Toi aussi, tu es bien placé pour en parler. On rappelle que tu soignes une blessure. Là, tu démarres une prépa marathon donc pour les Europes à Munich. Johan, tu fais beaucoup de vélo en ce moment, justement, pour digérer la charge de travail. C'est ça, Johan, en ce moment?
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai des petits soucis au tendon d'Achille. Donc, contrairement à Benjamin, moi, le vélo, je le place plus quand je suis blessé. Parce que l'intérêt, justement, du vélo ou des sports portés, comme tu l'as dit, c'est bien évidemment d'éviter les blessures. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de traumatisme lié au choc de la course à pied. On limite les contraintes musculaires, articulaires et tendineuses. En gros, c'est vraiment un sport qui est moins traumatisant. Et l'avantage, surtout, c'est que du coup, vous allez pouvoir augmenter votre volume d'entraînement, continuer à muscler votre cœur, travailler votre cardio, travailler votre puissance musculaire aussi, parce que travailler en vélo, c'est travailler en vélocité. On peut travailler en force, on peut faire plein de choses. Et du coup, ça permet vraiment de remplacer la course à pied. Ouais.
Est-ce que c'est nécessaire, voire obligatoire pour les coureurs, justement, qui soient confirmés ou amateurs, voire ceux qui débutent la course à pied, les coureurs qui sont plutôt sujets aux blessures musculaires, tendineuses, etc. Est-ce que c'est plus important pour eux que pour les autres de mixer les sports, justement?
Ouais, moi je vais le garder, tu vois, dans ma prépa. Autant l'année dernière, j'ai subi aucune petite alerte, aucun pépin physique, donc j'avais un peu négligé le vélo et pour être vraiment focus sur la course à pied. Autant cette année là, pour cette prépa là, je vais garder parce que là j'ai un beau vécu, j'ai un beau passif de vélo, j'ai beaucoup roulé, je sais que aujourd'hui je le maîtrise mieux. Il est intégré dans ma préparation là, dans mon début de préparation marathon, donc je vais le garder parce que c'est ça, c'est C'est tu mixes ça avec un peu de natation, un peu de renforcement musculaire et du coup bah t'évites vraiment les traumatismes et t'évites vraiment de te blesser. Et moi je trouve aussi l'autre avantage que j'ai pas parlé, c'est aussi de casser la routine et la monotonie de l'entraînement de la course à pied. Tu prends ton vélo, tu vois des paysages, tu roules en groupe, la monotonie c'est différent quoi.
Alors ça complète l'entraînement de course à pied, mais ça ne le remplace pas, on est bien d'accord.
Ouais non, ça le remplace pas, ouais, ça le complète, mais malgré tout la course à pied c'est un sport où faut garder ce stress un peu articulaire et tendineux et des muscles, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes muscles qui vont travailler que ça soit sur le vélo ou en course à pied. Et si vous voulez vraiment renforcer, surtout pour les distances longues comme le marathon, si vous voulez vraiment on est quand même obligé de courir.
Est-ce que tu privilégies justement l'entraînement croisé hors prépa spécifique, ou ça peut être le cas également quand tu as été dans tes 12 semaines de prépa marathon? Tu peux faire les deux?
Ouais, on peut faire les deux. Après, moi, je le privilégiais quand même surtout sur la période de travail foncière. Ouais. Quand on est en début de saison, en reprise, en préparation d'un objectif assez loin de l'objectif. Là, moi, je le conseille et je l'intègre et je vais continuer à l'intégrer parce que voilà, comme je le disais, on peut aller rouler 3 heures, développer son foncier sans musculairement, choper une tendinite du tendon d'Achille, donc ou se blesser musculairement. Donc c'est très bien. Je trouve aussi que c'est bien suivant les efforts. Un coureur de 1500, 5000, peut-être je lui conseillerais pas, mais pour un trailer, un mec qui fait des efforts longs, un gars qui prépare un 80 km, qu'il aille rouler 4 heures, qui sollicite les cuisses et les quadris, c'est très bien parce que dans les descentes, qu'est-ce qu'il va solliciter? Les cuisses et les quadris, qui travaille un peu ce renforcement là par le vélo sur une grosse sortie de vélo, je trouve que c'est intéressant. Mais voilà, je le positionnerai pas dans les 3 dernières semaines avant mon marathon ou avant un 10 km quoi.
Est-ce qu'il y a des périodes, Benjamin Schocker, où tu ranges complètement le vélo et où tu touches plus pendant, je sais pas, 2, 3, 4 semaines?
Il y a certaines périodes hivernales parce qu'en plus c'est un peu galère. Moi, je fais presque que du home trainer l'hiver, mais
c'est ça de vivre en
Asie. De le garder.
Mais quelle horreur, le home trainer surtout.
Parce que le home trainer, quand je m'étais blessé.
Non, maintenant il y a des applications des home trainers connectés qui te permettent de voir un peu plus. Puis Benjamin, il met Club Dorothée sur les.
Oui, c'est vrai, c'est ça.
Moi je mets des mangas, ça me permet de m'évader, je fais des grosses séances devant, ça me dérange pas du tout.
Bon, non mais alors c'est la suite logique, ok pour l'entraînement croisé, ok pour pratiquer le vélo, l'autre sport porté auquel on pense c'est la natation, mais est-ce que c'est important, Johan, quand on croise les disciplines, de mettre de l'intensité? C'est-à-dire si je remplace un footing par du vélo, est-ce que je me rentre quand même un peu dedans pour qu'il y ait un effet cardio, entre guillemets?
Ça c'est comme tout, ça va dépendre de la période et ça va dépendre si vous avez l'habitude de rouler ou pas. Je pense qu'au début, faut juste tourner les jambes, faire une sortie facile. Tu vois, t'as un footing d'une heure au programme, là tu le remplaces par une sortie vélo de 2 heures où tu tournes les jambes et tu montes un peu le cardio, mais voilà, faut pas travailler commencer à travailler en force parce que sinon vous allez vous matraquer les cuisses un peu pour rien. Donc voilà, et après l'intensité, si vous avez plus l'habitude, ça peut être intéressant. Après il faut surveiller la façon dont vous tournez les jambes, les watts, mais moi je travaille beaucoup là sur home trainer et je regarde beaucoup les watts et les rotations par minute pour essayer de travailler en vélocité et en souplesse et pas en force pour pas prendre des grosses cuisses de coureurs de sprinter quoi.
Ouais. C'est important ça de faire attention à la résistance entre guillemets, ouais.
C'est ça.
Benjamin, c'est ça, ouais. Ça c'est crucial pour quel conseil tu pourrais donner toi d'ailleurs, Benjamin, pour un marathonien ou un trailer qui nous écoute, qui a envie d'intégrer un peu de vélo dans sa prépa, tu lui donnerais quoi comme conseil?
Déjà moi, pour avoir fait des stages en équipe de France de montagne, ont été intégrés au trailer de l'équipe de France, tous les trailers ils venaient en stage avec leur vélo, ils font tous les trailers de l'équipe de France, ils font tous du vélo. Et en plus, ils roulent comme des gamins, ils font toutes les pancartes, tous les GPM, ils roulent vraiment costaud pour la plupart. C'était plutôt sympa d'aller rouler avec eux. Non, mais c'est ça, en fait, faut garder cet aspect plaisir, aller rouler en groupe, faire des sorties. Alors, si on fait du trail, essayer de faire un peu de dénivelé parce que c'est pas mal, en fait, ça fait monter le cardio, sans trop d'efforts, entre guillemets, parce que. Oui, faire du vélo en montée, ça charge un peu les jambes, mais en vrai, si on a le bon rapport poids-puissance, c'est assez facile de se faire plaisir en montagne en vélo, quoi.
Et
Après,
un
c'est.
garçon ou une fille qui est en pleine prépa marathon, qui a envie de faire un peu de vélo, tu lui conseilles quoi comme séance?
Ça dépend ce qu'il veut faire. Moi, je sais que de temps en temps, en fait, je me sers du vélo en pré-fatigue. Donc, pour éviter trop de traumatismes sur ma sortie longue, bah, en fait, je vais
Ah, donc
partir.
la veille, tu fais du vélo, la veille de la sortie longue, c'est ça?
Non, 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 en fait, pendant, j'intègre. En fait, je vais faire 2 heures de vélo, 2 heures de vélo assez cool. Et derrière, je vais tout de suite aller courir,
Ah,
peut-être une
ok.
demi-heure à 1 heure, en fait, plutôt que bah, de faire une sortie longue. Souvent, on peut faire 2 heures à pied ou 2 heures et demie. Bah, plutôt faire une pré-fatigue à vélo. Et
D'accord.
derrière, garder quand même cet aspect,
Ouais. Et puis
cette
après, pour
habitude de la course à
Benjamin,
pied. Ouais.
il fait ça aussi parce qu'il a la transition à bosser et que dès qu'il pose le vélo, il doit courir derrière pour retranscrire un peu de façon différente, quoi.
Non, mais c'est intéressant, c'est une bonne alternative à la sortie longue. Ouais, c'est j'imagine que
Bah,
mieux.
pour quelqu'un qui on le disait tout à l'heure, qui est souvent blessé, ça peut être intéressant. Ouais.
Ouais.
Après, attention au vélo, la vraie difficulté, c'est quand même de trouver les bons réglages. La hauteur de selle est hyper importante, la taille
Ça,
du
c'est
vélo,
sûr.
voilà, parce que allez pas vous choper une tendinite du
Ouais.
genou ou ailleurs, parce que vous êtes trop bas sur la selle ou autre.
Et puis c'est toujours le problème du vélo, c'est que, et d'une, c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps,
Ouais, c'est
mine de rien,
ça.
le
Ah,
vélo, parce qu'il
ça prend plus de temps. Ouais.
voilà, il faut le sortir, il faut faire des sorties de 2 ou 3 heures. Et puis il y a l'aspect mécanique. Donc il y a
Ah
ça
ouais.
aussi, si vous partez en sortie, il faut changer la chambre à
Faut
air, il faut tout
changer
ça,
ci, faut changer là.
graisser la chaîne, tous ces trucs. Au moins, en course à pied, on enfile les baskets, puis c'est réglé. Hein?
C'est ça.
C'est l'avantage. Enfin bon, Benjamin est fils de coureur cycliste, donc lui,
Il
changer.
portait les roues depuis
Non,
tout
mais
petit,
je
là,
pense que changer
d'habitude.
une chambre à air, il met 35 secondes. Crac, crac, hop.
Ouais, et en vrai, enfin moi, je perce très très peu souvent, hein,
Ah,
franchement.
voilà.
Ça... Eh ben, tu vas
Si on
percer cet
fait
après-midi. Ouais.
attention, ouais, c'est ça.
Poissard.
Si on fait attention, on roule et
Ouais.
voilà, on entretient bien son vélo, on nettoie correctement, il n'y a
Ouais.
pas de raison
Est-ce que
de
t'as
percer.
jamais eu peur de chuter, de faire une grosse chute en vélo?
Ça, c'est vrai.
Bah, je me suis déjà fait la clavicule, donc on est un vrai cycliste si on s'est déjà cassé la
Ah.
clavicule, donc
Ouais.
c'est bon. Mais après, oui, on a toujours peur. Je suis déjà tombé plusieurs fois hein, quand il pleut ou tout ça, mais après, on s'y habitue.
Et dernière question, mais t'as jamais été tenté de te lancer sur des grandes cyclos, genre l'étape du tour ou ce genre de truc? Non, ça t'a jamais attiré ça? Pas pour
Non,
l'instant.
pas particulièrement. Après, déjà, on fait déjà des grosses sorties. J'ai déjà fait des sorties de 200 bornes ou choses comme ça. Ou l'année dernière, avec les copains, on a fait le circuit de la Marmotte, qui, pareil, fait 160 ou 180, je sais plus.
Ouais.
On a fait 8 heures de vélo. Ça me fait pas peur. Après, bon, après, les cyclos, maintenant, ça devient quand même des grosses compètes,
Ah bah
hein.
oui, c'est un gros niveau, un gros niveau.
C'est des mecs de gros niveau. Donc,
Il y a
bon,
beaucoup d'anciens
après.
pros d'ailleurs, donc voilà.
Oui, c'est ça. Et puis bon, le calendrier me le permet pas forcément. On peut pas
Bien
faire
sûr.
n'importe quoi non plus.
Il est déjà assez pris. Je sais pas si t'as vu, mais
Ouais,
il est
c'est
quand même
vrai.
assez pris dans ses journées. Et
Non,
en plus, il a une piscine à surveiller.
moi, ce que je retiens de Benjamin Schocker, c'est que le gars refuse de faire du triathlon alors qu'il est maître nageur. Ça, on
Voilà.
aime.
Oh,
Ça, c'est quand
c'est
même
pas que
un
je
gros
refuse.
plus.
Hein. De temps en temps, j'en fais un ou deux dans
Ah, quand
l'année
même. Bah bon.
pour rigoler avec les copains. Mais bon,
Ouais.
moi, l'épreuve, elle commence quand je sors de l'eau, quoi.
Voilà, c'est
Donc.
ça. Format sprint, hein, voilà. 200 mètres dans la piscine, puis comme ça, c'est réglé. Voilà. Bon. Allez, merci. On passe tout de suite au bon plan d'ossard.
RMC,
le bon plan
Et
d'Ossard.
cette semaine, RMC est partenaire d'une magnifique course au mois de juin, la course royale du château de Versailles, Maître Yodu. C'est le
Ouais.
19 juin, il y a deux formats. La course royale 15 km, c'est un parcours d'exception avec des passages inédits dans les sous-bois, les allées majestueuses, le tour du Grand Canal et un final fantastique dans les jardins du Trianon. Quand même pas mal, hein, franchement.
Ouais, j'avoue.
Et il y a également pour les femmes la course des princesses. Ça, c'est uniquement dans les jardins du château, donc du château de Versailles. C'est quand même plutôt sympa. Le cadre est magnifique. Mois de juin, il fera
Magnifique.
certainement très beau. Magnifique cadeau que l'on vous propose cette semaine. Deux dossards à gagner pour participer, comme toutes les semaines. Vous allez sur notre compte Instagram RMC Running ou sur le club RMC Running sur Strava, en dessous du lien de cet épisode. Et vous posez votre candidature. Voilà, vous dites je suis intéressé. Et puis nous, ensuite, on prend contact avec vous. Benjamin Choquer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'est régalé avec toi pendant à peu près 1 heure. Hein. On a raconté ta magnifique histoire. Et puis Benjamin, tu le sais, en fin d'épisode, on a une tradition pour terminer.
Ah,
Eh
là,
oui,
je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il nous a dit.
alors la chance.
Moi aussi, j'ai hâte
Voilà,
d'écouter.
déjà t'as un indice. La chanson que tu écoutes en courant. Alors tu nous as dit, je suis très rock, moi, quand il s'agit de course à pied. J'ai pas un groupe particulier, tant que ça envoie, ça me va. Alors on va te soumettre deux chansons. Déjà celle-ci. Elle est pas mal là.
On est pas
ACDC.
mal.
Elle est pas
On est pas
mal.
mal, ouais.
Ça nous rappelle le marathon des sables de Claude d'Artois, Claude de Koh-Lanta qu'on a reçu il y a quelques semaines. C'était la
Ah
musique
ouais.
de départ de chaque étape du marathon des sables. Et on te propose également ça. Tiens, écoute. Est-ce que tu connais ça? suis pas sûr.
Non.
Alors ça, c'est le groupe italien qui a remporté l'Eurovision l'année dernière. Ça s'appelle Zitti et Buani.
Voilà.
Magnifique Eurovision. Bon, là, on est moins dedans. On est moins dedans, mais bon, en gros, tu aimes le rock. T'en as une à nous conseiller comme ça, une que t'écoutes en ce moment, Benjamin, non?
Après, moi, j'écoute des trucs bizarres aussi. J'écoute des trucs japonais de génériques et tout. Donc,
Ah ouais, là, on est dans un délire. Ah,
on n'aurait pas eu la playlist.
Ok.
C'est ça. Ou bon, alors, sinon, c'est du métal un peu bourrin. Donc bon.
Bon, très bien. Bon, on va s'arrêter là.
ACDC, c'était très bien pour se motiver. Ça met.
ACDC, c'est le top.
Carrément. D'énergie.
Et on va le faire, on vous le promet depuis longtemps, hein, cette playlist RMC Running sur les différentes plateformes de téléchargement, comme ça vous pourrez réécouter toutes les chansons de nos différents invités. Benjamin, merci d'avoir été avec nous, c'était cool de t'avoir avec
merci
nous.
Merci beaucoup, c'est super sympa.
Écoute, on te dit à bientôt, on te souhaite bon courage pour les Europes à Munich, dans la roue de Johan Durand, évidemment.
Exactement.
J'espère que vous allez finir en tête, la main dans la main, pourquoi pas, un doublé français.
Ah, ça serait beau. Quoi.
Ça serait beau. Merci coach également, c'était sympa.
Ah bah comme toujours hein.
Eh ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine évidemment avec un nouvel invité et un nouveau portrait. Et d'ici là on vous répète toutes les semaines ce conseil, surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.